Philosophie de l'art, père Philippe, 9 décembre 1982, Rimbaud.
Très bien. Alors, on me met ça, je vais le voir avec vous, parce que c'est bien. Bon. On met deux analyses différentes à propos du travail. Puisque l'analyse du facere, comment peut se faire cette analyse du facere? Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions essayé d'analyser pleinement ces différents moments du facere. Alors, ici, c'est une question de précision. On met en parallèle ce que je vous ai dit et on met en parallèle autre chose. Alors, je veux bien, parce que ça me permettra de compléter. Alors, je mets exactement ce qui m'est donné ici. Et puis on réfléchira ensuite. Premièrement, expérience artistique. Ou expérience esthétique, disons. Là, je crois qu'on peut dire l'expérience esthétique. Il y a une expérience esthétique. Puisque c'est la sensation esthétique. Bon. Alors, également, mais aussi expérience esthétique. Là, on est d'accord. Deuxièmement, inspiration. Secondement, inspiration. Si on est deux d'accord, ça prouve qu'on est dans la vérité, n'est-ce pas ? Donc, pas besoin de discuter. Si vous avez d'autres choses, vous le direz. Hein? Alors, troisièmement, le choix. Alors, j'avais dit à propos de l'inspiration, on pourrait mettre ici la naissance de l'idée. C'est ça que je n'ai pas dit la dernière fois, mais ça fait partie de la chose. Et ça complète, si vous voulez, ici on met le projet. Au fond, c'est la même chose. Le projet est libérant. Je suis tout à fait d'accord. Il faut mettre de l'inspiration, mais l'idéal, c'est-à-dire le possible que je peux réaliser. C'est bien ça le projet. Donc tout à fait d'accord à ce point de vue-là. Quatrièmement, le choix. Le choix porte sur les divers possibles, c'est bien évident. Et le choix porte sur les divers possibles. Il y a un possible qui s'impose comme nécessaire. C'est un passage extrêmement intéressant, c'est le passage du possible au nécessaire. En point de vue artistique, c'est toujours très intéressant. Parce que c'est quelque chose de capital, ça. Quand vous demandez à un artiste pourquoi il fait quelque chose, il dit, je ne peux pas faire autrement. C'est évident qu'il n'a pas choisi hein, les possibles comme on choisirait, je ne sais pas, moi. Quand vous choisissez des bonbons, très bien, vous choisissez, très bien. C'est pas très artistique. Sauf si votre instinct alors est tellement fort, moi je n'aime que ce chocolat et celui-là. Alors, il existe, immédiatement, ils sont dessus. Les gosses font ça, on est très amusant parce qu'ils ont, une expérience d'un goût de tel chocolat, et là ils le retrouvent, ils foncent dessus, ils ne regardent pas. Ils regardent tout de suite si celui-là existe. Ils sont très artistes là-dessus, ils sont comme des artistes. Alors, c'est vrai que le choix créateur, c'est ça. C'est quelque chose qui s'impose, c'est nécessaire, ça s'impose, pas. Ça ne peut pas être autrement. Alors, on dit choix, en réalité, c'est pas du tout un choix. C'est une adhésion à quelque chose qui s'impose comme nécessaire. Il ne peut pas y avoir d'autre chose. Et c'est pour ça que, d'une façon générale, on dira que la prudence implique des voies indéterminées, et il y a un choix au niveau prudentiel, tandis que l'art, ce sont des voies déterminées. Et c'est à cause de ça qu'on dit les voies déterminées. Vous voyez, c'est à cause de ce possible qui devient nécessaire. Ça, c'est très important et très intéressant. Alors, cinquièmement, le travail. Bon, je suis tout à fait d'accord, le travail. Cinquième, donc sixièmement, le point de vue de l'outil et de la méthode. Bon, on est d'accord aussi. Outil et méthode. Sixièmement, outil et méthode. Donc en effet. Alors, vous voyez, sur l'outil et la méthode, il peut y avoir un nouveau choix. Ça, c'est sûr. Là, il y a un choix. Je choisis tel outil, je choisis telle méthode. Septièmement, alors, au fond, l'outil de la méthode, en réalité, le choix porte sur les outils habituels en fonction de la matière. Alors, la matière, elle s'impose ou la choisit. Ça dépend. Quand on vous demande de réaliser une table en bois d'île, vous êtes bien obligé de choisir ce bois. On vous l'a imposé, on vous la commande. Mais ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est celui qui vous a fait la commande. Ça revient au même. C'était le choix d'un autre. Mais ça a été choisi, on a choisi diverses matières. Ou on vous demande de choisir en telle ou telle matière. Donc il y a toujours la question de la matière. Et ordinairement, c'est à cause de la matière que vous choisissez tel outil et telle méthode. Ça, il y a un lien entre les deux. Alors là aussi, attendez. Ah oui, on met méthode, outil, c'est la même chose. Donc, septièmement. Ah oui, c'est parce qu'on met deux, on peut mettre six bits si vous voulez. Outil et méthode, pour moi, c'est à peu près la même chose. Hein. Vous voyez, c'est très différent, c'est bien évident. Mais c'est à peu près la même chose. Alors, vous pouvez mettre, si vous voulez, sept ici. Je veux bien vous mettre sept ici. Sept. Pour la méthode, et 8 par le fait même pour la matière. Puis ensuite, vous avez à l'intérieur 9, le jugement critique. Moi, je mettrai le jugement critique ici. Il y a un jugement critique qui est à l'intérieur du travail. À l'intérieur du travail, vous avez toujours la possibilité, et vous devez le faire, de voir si c'est bien ça. Un artiste qui travaille s'arrêtera de faire de temps en temps. Il réfléchit. On verra si c'est bien ça. Il y a une espèce de jugement critique qui est à l'intérieur, qui n'existe pas au niveau moral, mais qui existe au niveau artistique. Il y a ce jugement artistique qui alors fait 9, 10, l'œuvre. Ça c'est pour vous montrer tout ce qu'on a pas vu. Tout le pain à avoir, tout le pain sur la planche. Hein. 10, le point de vue de l'œuvre. Jugement critique, méthode, l'œuvre. Alors, 11, coopération. 12, le milieu. Demandez de l'aide, hein. Ça c'est la coopération, c'est l'aide. C'est l'aide. Jamais je n'arriverai, venez l'aider. N'est-ce pas? La moisson est nombreuse, les ouvriers sont peu nombreux. Alors, la coopération, on demande. Je dois éplucher les légumes le matin, il y en a la moitié qui sont absents. Si ça ne va pas, on n'arrivera pas à l'heure, c'est impossible. On a fait le travail, on voit très bien. Ça avait calculé pour tant d'ouvriers, et ils ne sont pas là, donc ça ne va pas. Alors, on est obligé de demander de l'aide. La coopération, c'est ce qui fait partie de la chose. Donc, l'œuvre, coopération, milieu dans lequel se fait. Alors, au fond, là, je crois que, d'après la question, c'est bien, on a donc 12 moments à étudier en philosophie du facere, si je veux étudier ce que c'est le facere. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout une analyse des causes, ça. C'est pas du tout une analyse des causes, ça. Ah, attention. Dans ces 12, hein, je verrai que ce sont partout des liens de causalité. Alors, on va essayer de faire ça avant de décrire. Hein. Quels sont les liens de causalité qui existent? Alors, le but, c'est quoi? Ah, c'est l'œuvre. C'est évident que c'est l'œuvre. Donc, c'est l'œuvre qui va me commander tout. Je ne travaille pas pour que d'autres travaillent avec moi. Ça peut se faire. Si je suis dans une solidarité absolue, la finalité serait la coopération. On fait ça avec des enfants. Vous savez, alors c'est le jeu. Jouez, commencez à jouer, puis joueront avec vous. Comme ça, vous les occupez. On s'en fiche pas mal de ce qu'on fait. Mais c'est uniquement jouer pour qu'ils jouent avec vous. Alors vous voyez, ça c'est tout à fait différent d'un point de vue éducatif. Alors vous servez de rôle de modèle. Entraîner les autres. Mais ça, c'est second, c'est pas premier au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, si je travaille, c'est pour une œuvre. Sauf à l'armée. Non? Si je travaille, c'est pour une œuvre. Parce que je veux très bien uniquement travailler pour travailler ou au noviciat. Il y a des similitudes. Je Ordinairement, aujourd'hui, quand on donne un travail au noviciat, on le fait avec intelligence et donc on vous dit qu'il y a une œuvre à faire. Ce que je crois beaucoup mieux qu'avant. Vous donnez au noviciat, nous, à balayer un escalier propre. C'est extrêmement vertueux, balayer. Alors, c'est pour la 16, on commence par le bas. Pour aller vers le haut, on est balayé. Et ça fait des choses merveilleuses. Alors à ce moment-là, vous voyez, ce n'est pas du tout le point de vue de l'œuvre que vous regardez, c'est le point de vue de la coopération, ou le point de vue du milieu dans lequel vous devez faire. N'est-ce pas ? Alors il faut essayer de comprendre que philosophiquement, le travail est ordonné à l'œuvre. Alors par rapport à l'œuvre, je vais essayer de qualifier ces 12 moments, je vais qualifier ces 12 moments par rapport à l'œuvre pour essayer de comprendre si mon analyse implique une analyse de cause. J'ai tout à fait le droit de faire ça. Je qualifie ces différents moments. Oui. Est-ce que mon analyse implique des causes ? Et au fond, est-ce que ça, je crois que tout le monde qui a... Nous l'avons fait, nous avons donné la description. Maintenant, nous donnons les 12 moments. Pas pour arriver à 12, hein. Mais c'est nous donnons les 12 moments. Oui.
Vous considérez pas ici l'homme transformé par le travail.
Oui. Alors, ça, c'est quelque chose de différent. Hein. Vous pouvez le mettre, marquer les 13. C'est pareil au chiffre 13, ce que vous avez dit. L'homme fader. C'est le mot fader, pour moi, c'est la dernière des choses. Qui, d'une certaine manière, est la synthèse. C'est pas de l'analyse. Hein. Vous voyez ? C'est pour ça que je ne le mets pas. Oui. Je suis parti de l'hypothèse que l'homme travaillant se transforme comme homme. Autrement, ce ne serait pas philosophique. Vous voyez ? Je n'aurais pas besoin, puisque le philosophe regarde l'homme. Si j'étudie le travail, ça prouve que ça transforme l'homme. Vous voyez ? Et donc, mais vous avez raison, c'est le nota bene, hein, en dernier lieu. C'est au point de départ et au terme. Autrement dit, toute cette analyse est enveloppée par Homo Faber, au point de vue philosophique. Parce qu'au point de vue philosophique, toute cette analyse regarde l'homme. Et regarde l'homme en tant qu'il est transformé par le travail. Vous voyez ? Ça, c'est pour ça qu'il est toujours présent, vous voyez ? Mais c'est bien, c'est la toile de fond. L'homme est toujours présent. Bon, alors, je vais regarder. L'expérience artistique par rapport à l'œuvre. Hein. Ça, c'est intéressant, encore une fois, pour qualifier davantage la recherche des causes. Et c'est une manière pour moi de découvrir ce que c'est en principe une cause. En voyant, c'est difficile, en analysant. Très très bon pour nous, parce que c'est un très bon exercice, ça, d'essayer de qualifier cela, au point de vue. Faites-le vous-même, hein, vous découvrez avant que je le dise, comme ça, vous serez intelligent. Alors, oui, je pourrais mettre 5 minutes de recherche, faites ça, et puis après on va... Alors, l'expérience artistique par rapport à l'œuvre. L'expérience artistique n'est pas directement liée par un lien de causalité. Autrement dit, je suis en face d'une expérience artistique qui, en elle-même, a sa valeur, et n'est pas du tout, elle est immédiatement et fondamentalement reliée. Donc, il n'y a pas de lien de causalité. Pas de lien de causalité direct, hein. Un lien de causalité lointain. Il faut beaucoup d'expérience pour être inspiré. Ça, c'est très vrai. Toutes les artistes vous diront. C'est l'humus, hein, c'est l'humus, c'est tout ce qui est autour de nous, et c'est cette expérience, et c'est très vrai, quand on n'a eu qu'une seule expérience dans sa vie, l'inspiration est pauvre, n'est-ce pas ? Mais quand de fait la Providence a permis que vous ayez des contacts multiples, des expériences à dire, ça enrichit énormément, c'est sûr, au point de vue expérience artistique, hein, ça peut vous disperser. Vous dispersez, c'est autre chose. La spiritualité du boulot, la spiritualité du cerf, hein, jamais l'oublier. Le cerf doit être très ample dans tous les sens, tandis que le boulot, il pousse d'un seul temps. Alors, vous avez des inspirations de boulot, des inspirations de cerf. Ça dépend. C'est sûr. C'est oui, puisqu'il y a des inspirations du côté classique, du côté romantique, du côté... Chaque artiste a des inspirations, vous voyez tout de suite chez un artiste, si vous avez quelque chose d'extrêmement net, purifié, décanté, ou au contraire, si vous avez une inspiration, oui, il y a quelque chose, mais c'est tellement dans le brouillard, et dans dans l'imaginaire affectif, vous ne savez même pas s'il y a encore une petite inspiration. N'est-ce pas? C'est d'une épaisseur. Alors, ça peut être très romantique. Parce que certains aimeront ça. C'est une inspiration qui... L'inspiration qui meurt comme l'inspiration, mais qui a un feu extraordinaire. Vous savez, le dragon qui vomit le fleuve derrière la femme, ça c'est tout à fait de l'inspiration romantique. Surtout quand vous essayez de la représenter. On voit très très bien. Bon. C'est l'expérience esthétique, et mais donc qu'elle n'y a pas de lien de causalité immédiate. Il faut accepter. Et vous voyez, c'est parce que justement c'est l'homme. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et c'est pour ça que ça fait partie. Parce que ça regarde l'homme directement, ça. L'expérience esthétique enrichit l'homme. Comme toute expérience. Mais l'expérience esthétique, d'une façon très particulière, ça vous enrichit. C'est une très grande richesse. Alors, ça regarde l'homme, mais ça permet à l'homme d'être parfaitement lui-même et de s'éveiller comme artiste. Il s'éveille comme artiste de cette manière-là. Quelqu'un qui a été élevé dans un milieu artistique et quelqu'un qui n'a pas été élevé dans un milieu artistique, il y a une très grosse différence. C'est bien évident, ça peut bien être. Alors il y a des génies qui n'ont absolument pas été élevés dans un milieu artistique et qui ont quelque chose d'impétueux, mais il y a quelque chose qui implique ça, ça c'est sûr. D'avoir été élevé dans un milieu donné, ça joue. Expérience esthétique. Mais ce n'est pas directement ce qui va expliquer l'œuvre. Ah, l'inspiration. Donc, vous voyez ici, pas de causalité immédiate. Mais il y a des causalités lointaines, fondamentales. Alors là, oui. Alors, je ne précise pas, parce qu'elle est fondamentale, du fait même qu'elle est fondamentale et lointaine, elle est un peu tout. C'est propre. C'est pas une causalité propre. L'inspiration par rapport à l'œuvre. Ah oui, alors là, l'inspiration est source. Source de l'œuvre. Elle est source. Alors, quand je dis source, quel genre de causalité? Quel genre de causalité? La causalité de l'inspiration. L'inspiration, source de l'œuvre. Alors, c'est... Et qui dit source, c'est ça qui est très intéressant. C'est que qui dit source dit encore une causalité fondamentale. Elle n'est pas propre. Vous voyez, il y a du fondamental plus ou moins. Hein. Ça, je peux aller loin. Parce que je pourrais prendre tout l'atavisme aussi. Hein. Ça jouerait aussi. Vous avez eu un grand-père qui est artiste, ça joue. C'est évident que ça joue. Vous avez eu au contraire, et ainsi de suite. Vous voyez, donc, le point de vue de l'inspiration, c'est source. C'est donc cause formelle, ça c'est sûr. L'inspiration va déterminer, va orienter. Cause efficiente, c'est sûr. C'est les deux. Ça va être les deux. Et c'est vrai. Parce que cette inspiration va se préciser dans l'idéa, et l'idéa, c'est possible, ce sera la causalité exemplaire. Alors la causalité exemplaire, c'est une causalité synthétique. Ce n'est pas une causalité sainte, la causalité exemplaire. C'est une causalité qui implique des éléments formels, des éléments d'efficience, des éléments finales. Dans l'ordre de l'intentionnalité. Je suis devant une causalité complexe. Complexe et synthétique. Et alors, l'idéal, le possible, est déjà ça. Vous voyez, alors, au fond, j'ai inspiration, idéal, choix, qui vont me mettre en présence de cette causalité exemplaire. La causalité exemplaire, si je veux vraiment l'analyser, implique l'inspiration, l'idéal, le choix. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça me permet d'étudier la causalité exemplaire. La causalité exemplaire, je ne la comprends parfaitement que du côté artistique. Ce n'est pas du côté moral que je comprends la causalité exemplaire. Ça me gêne toujours, moi, philosophiquement parlant, vous voyez, quand on parle de Saint Bruno ayant un idéal. Dans la vie du réfectoire, on a parlé de l'idéal de Saint Bruno. C'est très gênant. Quand, dans la vie de Saint Ignace, c'est encore mieux. On dit qu'il a voulu faire la synthèse des différentes saintetés qu'il avait devant lui. Donc, pour se forger une espèce d'idéal. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'au fond, on vit d'un idéal ? On ne vit pas d'un idéal. On vit d'un bien. On se forge un idéal. Est-ce que ça, c'est la sainteté ? On se forge un idéal. Causalité exemplaire. Alors à ce moment, vous vous forgez votre sainteté. J'aurai ce genre de sainteté dans la Sainte Église de Dieu qui n'a pas encore existé. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu qu'il y avait un trou là. Et que je devais forger ce genre de sainteté. Cause exemplaire. Vous êtes un artiste. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a mis ça dans la tête ou est-ce que c'est vous? Toute la question est là. Si c'est un esprit, très bien. Très, très bien. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, dangereux. C'est les révélations privées. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est un idéal qu'on s'est forgé? C'est pas commode, c'est la cause exemplaire, sans savoir. Dans la cause exemplaire. Je prends on pourrait des tas d'exemples comme ça, ce qui serait très intéressant, du reste. Quand on lit la vie des saints, c'est toujours très intéressant de voir ça, parce que, ordinairement, la vie des saints n'est pas écrite par les saints. C'est écrit par des artistes qui sont séduits par la sainteté. Mais ils ne sont pas des saints, parce que les saints n'écrivent pas des vies de saints. Ils vivent différents. Tandis qu'ils sont élevés par des artistes. Et plus l'artiste est artiste, vous voyez, plus l'artiste est artiste, et qui vit la vie et la clé d'un saint, plus il y aura le phénomène du passage de la causalité finale à la causalité exemplaire. Un artiste, quand il a été séduit par une sainte ou un saint, ben, il, forcément, ça a été l'image de sa vie, quoi. Alors après sa mort, il l'écrit, n'est-ce pas? Et puis, il s'est donné une cause exemplaire. Alors, la cause exemplaire, ainsi, si j'essaie d'étudier ici, je vois inspiration, idéal et choix, tous les trois font partie de la cause exemplaire. C'est très intéressant, parce que ça me permettrait... philosophiquement, si je vois bien ces trois, ça nous permettra, on fera, au terme de ces trois, post-Christum, cause exemplaire. Et la cause exemplaire, vous allez voir, elle va impliquer de l'inspiration, elle va impliquer du possible, elle va impliquer du nécessaire. Voilà les trois éléments de la cause exemplaire. Et les trois éléments de la cause exemplaire, je les découvre dans l'inspiration, dans le possible, dans le nécessaire. Ça, c'est intéressant parce qu'ordinairement, la cause exemplaire n'est très peu étudiée comme cause exemplaire. C'est vrai, on dit l'exemplaire. Hein. Vous savez bien la manière extraordinaire dont Sénèque définit le philosophe. Les philosophes. Natissunt ut exemplaire. C'est dit à la manière de Sénèque. Ils sont nés pour être modèles. Les philosophes, hein, n'oubliez pas. Natissunt ut exemplaire. Ils sont nés pour être modèles. Ils sont nés pour être exemplaires. L'exemplarité. Alors, vous découvrez là la naissance de l'exemplarité, les trois. Le travail par rapport à l'œuvre. Ah, ça, c'est beaucoup plus facile. Le travail par rapport à l'œuvre, et c'est évidemment la cause efficience. Ça, je crois que c'est facile à comprendre. La cause exemplaire a besoin d'une cause efficiente. On a besoin d'un dimurge, hein, à la manière platonicienne de parler. Vous savez, quand Platon regarde le dimurge, on est dimurge. Quand vous forgez, hein, vous aimez ça, on fait quelque chose, on réalise quelque chose. Alors, on est dimurge d'une matière. Cause efficiente, vitale. Et je dis bien cause efficiente, vitale. Parce que ce n'est pas une cause efficiente extrinsèque, cause efficiente, vitale. L'outil à la méthode, cause instrumentale. Comme ça. Cause instrumentale. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que les deux se tiennent, méthode et outil, les causes instrumentales de manière différente. Cause instrumentale du côté, j'allais dire, réflexion, la méthode, en nous donnant un ordre qu'il faut suivre, et cause instrumentale au niveau de l'outil, c'est du côté de l'efficience. La matière, c'est évident, c'est la cause matérielle. Le jugement critique. Le jugement critique. Hein, c'est très curieux. L'œil de Moscou, hein, c'est, qui arrive là au bon moment. Hein, il va essayer de saisir exactement à quel moment. Et on est à soi-même son autocritique, hein, quand on est un artiste. Mais on peut avoir aussi l'œil de Moscou à côté. Hein. Vous êtes un. Commencer tout à fait, Alors il y a un côté un maître qui dit, ah, là, tu t'es trompé. Première fois que vous faites la cuisine et que vous êtes à côté d'un maître coq à côté du fond du bas, et puis il dit, vous voyez, vous avez oublié. C'est à ce moment-là qu'il faut faire la chose, juste à ce moment-là. Et dans l'art artisanal, c'est très simple, on voit tout de suite le jugement qui est dit. Si vous êtes un grand maître, vous arrivez vous-même à votre autocritique. Vous dites, c'est faux. J'ai chanté de façon fausse, ça ne va pas. Vous êtes autocritique. Le jugement critique. Alors le jugement critique, il est quoi? Il est du côté de la cause exemplaire. C'est la cause exemplaire présente à l'intérieur même de mon développement artistique. Et je suis capable de voir si c'est... Alors cette cause exemplaire, oui, parce que la cause exemplaire, elle est extrinsèque. C'est propre de la cause exemplaire, elle est extrinsèque. Mais la cause exemplaire, elle est extrinsèque, et c'est en ce sens-là qu'elle peut mesurer et juger. Elle mesure toujours. Et donc, elle est capable de juger. Oui.
C'est pas par rapport à l'œuvre aussi
ce que j'ai... Oui, c'est sûr. Mais la cause exemplaire regarde l'œuvre. Hein. Faisons attention. Mais l'œuvre n'étant encore pas faite, c'est pas l'œuvre qui mesure. Le jugement critique que je pose sur quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, l'œuvre n'est pas faite. Hein. Ah, il peut y avoir un dernier jugement critique, alors là, je le laisse de côté, parce qu'il est extrinsèque, ça c'est pour les critiques. Vous voyez? C'est pour la presse. C'est pour le milieu. C'est dans le milieu, ça. Vous avez réalisé une œuvre, ben on vous fera la critique après. Ça. Tandis que le jugement, ce jugement que je mets ici, c'est à l'intérieur du travail. Vous voyez? À l'intérieur du travail, attention. Ce sera trop long, faites attention, ça durera trop longtemps. Alors, jugement critique, il faut couper, il faut aller plus vite. C'est au fond le jugement critique qui est là, qui est la cause exemplaire. Alors, c'est très intéressant parce que ça montre que la cause exemplaire est toujours mesure, elle est capable de mesurer même le point de vue du travail, elle l'oriente. Et elle peut montrer le lien entre le point de vue de la cause exemplaire, les causes instrumentales et la matière. Donc, elle fera un lien. Par rapport à ça, et je vous dis la cause exemplaire. C'est un besoin de synthèse. Mais dans la mesure, dans quelle mesure la cause exemplaire dirige la cause efficiente, comment la cause exemplaire est présente pour ordonner les causalités efficientes, et par rapport à la matière. Mais ce n'est pas la matière qui mesure, c'est la cause exemplaire. Alors, l'œuvre, ben oui, l'œuvre elle s'impose. C'est la fin, donc elle s'impose. On se repose quand l'œuvre est terminée. Donc l'œuvre, elle n'a pas de cause exemplaire, c'est le fait. Le donné, auquel on vient tout le temps. Oui. C'est pour ça que quand il n'y a plus d'analyse de cause, voyez, quand il n'y a plus d'analyse de cause, on fait la phénoménologie de l'œuvre. C'est pour ça que l'esthétique de la phénoménologie, c'est la phénoménologie de l'œuvre. Du frère. Ça fait du frais, son esthétique. Ça m'a toujours frappé, toujours. Je me suis demandé, mais pourquoi ça? C'est quand même très curieux. Eh bien, on en voit le fait. Vous n'analysez plus, il n'y a plus d'analyse. S'il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus que l'œuvre. C'est la seule chose que vous regardez. Et la seule chose dont vous pouvez donner la phénoménologie de l'œuvre. Oui. Et vous n'analysez plus. Alors que si vous voulez analyser, vous enveloppez l'œuvre des diverses causalités. Donc l'œuvre, c'est le fait, c'est le donné. Alors, la coopération, bon, la coopération c'est facile à comprendre, hein. C'est du côté de la cause efficiente. Toute cause efficiente permet une coopération. C'est pas du côté de la matière, c'est pas du côté, non, c'est pas du côté des instruments, parce que ça simplement, on ne coopère pas, les instruments dominent. C'est pas la méthode, c'est du côté de la causalité efficiente. C'est la multitude des travailleurs, hein. La solidarité des travailleurs, la coopération. Alors, le milieu, on retrouve dans le milieu une causalité enveloppante. C'est la causalité enveloppante. C'est une causalité équivoque. Hein? Équivoque dans le sens analogique, c'est la causalité équivoque. Le milieu, c'est très curieux. Alors, grâce à ça, vous pouvez comprendre. Le milieu, causalité équivoque, le milieu va. Le milieu dans lequel vous travaillez, ça savez bien, vous avez toujours cette excuse quand vous avez raté un travail. Que voulez-vous ? J'ai travaillé dans des circonstances impossibles. Automatiquement, c'est une excellente excuse. J'ai travaillé dans des circonstances impossibles. C'est impossible, j'avais mon temps coupé, j'avais pas suffisamment de temps, c'est impossible. Oui, c'est vicieux ça. Alors vous voyez que ça joue au niveau du travail, au niveau de l'exécution, c'est sûr. Quand on exécute, pourquoi ? On voit très bien les gens qui doivent réaliser quelque chose. Hein. Il faut du temps et ça continue. Si ce n'est pas suffisamment long, ça ne va pas. C'est pour ça que les artistes, quand ils sont au travail, ils ont besoin, même s'il faut passer la nuit, ça n'a pas d'importance, il faut tout le temps. Ils s'arrêteront très peu de temps, ils reprendront. Tandis que quand c'est trop coupé, alors l'inspiration coupée, vous voyez, la causalité exemplaire, ça ne va plus. On met du temps à se remettre. Vous voyez, c'est alors le milieu va jouer de cette manière qu'il peut faire des ruptures. C'est très vrai, il peut faire des ruptures, il fait des ruptures. Le milieu dans lequel je travaille fait que je n'ai pas eu suffisamment de temps et de temps continu. J'ai travaillé dans un milieu qui m'était hostile. Travailler dans un milieu qui m'était hostile. J'avais toujours autour de moi des ricanements qui étaient là et qui me faisaient dire que ce que je faisais était idiot. Alors ça m'a stérilisé complètement mon inspiration. Mais le milieu peut très bien être ça. Je peux imaginer qu'il y a autour de moi des gens qui ricanent. Ah, il travaille encore, on va voir ce qu'il va faire. N'est-ce pas ? Et puis il accouche d'une souris. N'est-ce pas ? C'est parce qu'il a. C'est parce qu'il a beaucoup travaillé, mais il n'y arrive pas. Les gens rient. Le milieu dans lequel on est, ça c'est du côté de la critique, jugement critique. Et le jugement critique peut très bien arriver à faire qu'après l'œuvre, on considère que l'œuvre qui a été faite, c'est rien du tout. On s'aborde. On peut s'aborder. C'est bien, c'est un fait, on connaît suffisamment ce fait, c'est que on accepte que l'œuvre des petits copains, tout ce qui n'est pas l'œuvre des petits copains, on ne l'accepte pas, tout ce qui ne fait pas partie de la mafia. Alors on va dire que c'est génial, parce que pour quand j'aurai moi-même fait la chose, tu diras que c'est génial. Et alors on se dit que si au contraire vous êtes libre dans votre jugement, mais vous êtes sûr qu'à ce moment-là on vous saborera. Alors, il y a tout ça qui joue dans la question du milieu et qui joue un rôle très important, ou de stériliser, ou d'encourager, ou de retarder, ou de freiner. L'homme est un être humain qui, quand il travaille, sur une matière et donc il travaille dans un milieu. C'est très différent du point de vue moral. L'artiste est beaucoup plus dépendant du milieu que l'homme moral. L'artiste est nécessairement dépendant de son milieu parce qu'il travaille sur une matière. Et donc, ce qu'il fait est visible. Il n'y a que son inspiration qui est invisible. Alors, il peut toujours se rattraper sur l'inspiration. Mais l'inspiration n'est inspiration que quand elle est réalisée. Vous voyez, je vois très bien comment Maritain, c'est intéressant à noter toutes ces choses-là, parce que, de fait, je crois qu'il faut arriver, on arrivera à analyser ces 13 moments, ou ces 12 moments, n'est-ce pas ? On arrivera à analyser cela, et c'est important par rapport aux diverses conceptions d'esthétique. Maritain, quand on verra l'inspiration, Maritain dit que l'inspiration est un moment, il appelle ça l'intuition poétique. Il dit que l'inspiration est une intuition poétique. Et alors cette intuition poétique, il la sépare de la techné. Il dit le mot techné, art, c'est du côté du travail, c'est l'exécution. Alors, l'inspiration est la seule chose importante, et cette inspiration, il dit intuition esthétique. Vous voyez, c'est intéressant à voir, parce que ça montre que c'est vrai que l'inspiration est un moment qui est complètement en dehors de la critique des autres. C'est durant l'inspiration où je suis le plus maître de moi-même, d'une certaine manière. Parce que vous êtes toujours libre, quand vous êtes dans la phase d'inspiration, de dire ce que vous voulez. Vous êtes en phase d'imbécile, vous ne le dites pas comme vous. Je sais bien ce que je vais faire. Alors on raconte des tas de choses complètement en dehors, et son inspiration, évidemment, on la garde. On la garde, parce qu'il ne faut pas la mettre trop vite, l'exposer trop vite, parce qu'il suffit qu'on... C'est à l'état embryonnaire, une inspiration. Et si vous la dites, et que quelqu'un vous la critique, vous êtes immédiatement arrêté. C'est très fragile, une inspiration. C'est très fragile, c'est embryonnaire. Et alors, comme c'est très fragile, faut pas, on peut le confier qu'à des amis, qu'à des gens qui comprennent, et qui sont là pour nous encourager. Mais on ne peut pas le livrer à un milieu. C'est pas si vous livrez à un milieu, alors vous voyez, toutes les critiques d'art sont là pour vous sabrer avant que l'enfant naisse. N'est-ce pas? Et alors ce sera un avortement terrible de l'inspiration, parce qu'il ne pourra pas naître. L'inspiration ne pourra pas aboutir. On comprend comment Maritain sépare l'inspiration du travail. Je ne crois pas qu'on doit le faire. Mais ça, c'est tout simplement parce que, vous voyez, on veut sauvegarder l'activité artistique une phase purement immanente. Mais en faisant ça, on oublie que le propre de l'activité artistique, c'est d'être lié à l'homme, esprit et corps. Et donc, on ne peut pas séparer l'inspiration du travail, ce serait du platonisme. Oui. Si j'étais platonicien, j'accepterais ce que Maritain dit. Mais quand je regarde l'homme dans son unité, je ne peux pas l'accepter. Parce que, de fait, l'artiste a besoin de réaliser. Il ne peut pas rester uniquement au niveau de l'inspiration. Il a besoin de réaliser. Un artiste doit réaliser. Et s'il ne réalise pas, il y a quelque chose qui lui manque. Alors, il peut le faire pour des motifs surnaturels, mais ordinairement, il y aura des refoulements terribles, des refoulements effrayants. C'est pour ça qu'on doit faire grande attention. Je me souviens très bien, le père Dehaut disait tout le temps, il était très artiste au point de vue musical, et il disait tout le temps, on doit toujours se demander, quand on est en face d'un artiste, est-ce qu'on doit arrêter son génie pour des motifs surnaturels, ou au contraire, les développer pour se sanctifier par là. Parce que arrêter un génie, ou quelqu'un qui est artiste, tout simplement, il est génial du fait même qu'il est artiste, donc arrêter un artiste dans son développement risque de faire des refoulements terribles. Parce que l'art repose sur des choses qui sont d'une très grande vitalité en nous. Vitalité de l'intelligence, vitalité de l'imagination. L'artiste canalise son imagination, il s'en sert. Et si l'imagination n'est pas canalisée par l'art et réalisée par ailleurs, il risque d'y avoir des refoulements imaginaires effrayants. C'est très important, ça, de réfléchir là-dessus. Et là, on réfléchit philosophiquement sur l'enracinement, vous voyez, de l'art dans l'homme. C'est homo faber. C'est que ça se tient. Je ne peux pas séparer dans l'activité artistique distinguer des moments de pure immanence, mais je ne peux pas le séparer. Il n'y a pas de séparation entre l'inspiration et l'exécution. Tandis qu'au niveau moral, la distinction est beaucoup plus forte entre l'intention et l'exécution. C'est très curieux, ça. C'est pour ça qu'il faut une vertu particulière pour l'exécution. Parce que la séparation est beaucoup plus grande. Tandis qu'en art, il n'y a pas de vertu particulière pour l'exécution. Un artiste exécute. Et il est poussé dans l'exécution à cause même de la nécessité de ce qu'il pense et de ce qu'il porte. Et donc, il n'y a pas de phase d'impérium, vous voyez, nous n'avons pas mis de phase d'impérium. Hein. On verra en parallèlement, je ne le fais pas ici parce que nous avons deux cours, le point de vue moral et le point de vue du Facere. Alors, nous verrons dans l'analyse, et vous ferez vous-même, puisque vous n'aurez que les deux petites fiches. Alors, prenez les 12 ici. Et puis on verra si du côté de l'agir moral, nous avons aussi 12 moments. 12 moments dans cette espèce de développement propre du facere de l'agir. Et voir dans quelle mesure, ça vous pouvez faire vous-même, dans quelle mesure il y a des moments où le facere est complètement isolé du reste. Alors nous allons, je reviendrai là-dessus, sur l'expérience esthétique, et puis nous allons analyser successivement ces différents moments. Je voyais l'intention. Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,